avec vous, à vos côtés. Bonne nuit à vous qui allez dormir. Excellente nuit à vous, oiseaux de nuit, qui n'allez pas encore dormir. Et puis, je me réjouis de vous retrouver tout à l'heure, à 22h, avec Maëlle, avec toute l'équipe. Tout le monde sera là pour votre dernière libre antenne de la semaine. Je vous embrasse, salut.
Merci Olivier, rentrez bien et bonne nuit. Vous écoutez Europe 1, il est 1h. Et la nuit se poursuit à présent avec Christophe Ondelat qui depuis mardi nous raconte des histoires issues du livre « Les morts ont la parole » d'un célèbre médecin légiste belge qui s'appelle Philippe Boxo et dans lequel il raconte régulièrement quelques-unes des affaires sur lesquelles il a eu à travailler. Deux histoires qu'il débriefera évidemment à la fin des deux récits. Et la première histoire nous parle d'une jeune fille qui tue son père et qui finalement ne le tue pas. Bienvenue dans Ondelat raconte.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Les homosexuels, des dégénérés, qui accomplissent des actes contre nature. La preuve que c'est pas naturel, c'est qu'il n'y en a pas chez les animaux. Hein. Faut les soigner, ces malades, ces pervers. Je vous présente Philippe, homophobe jusqu'au bout des ongles. Philippe est le papa d'une jolie jeune fille de 20 ans qui se prénomme Marie. Il est séparé de sa femme. Marie habite une semaine chez sa mère et une semaine chez lui. Et Marie, eh bien, il ne l'a jamais vue avec un garçon. On dirait qu'elle fait tout pour les éloigner et les décourager. Et pour cause, elle préfère les filles. Et ça se confirme quand elle tombe amoureuse d'Amélie. Papa ! Papa, viens. Ça va ? Je te présente une amie. Elle s'appelle Amélie. Bonjour, monsieur.
Bonjour, mademoiselle. Je m'inquiète toujours quand ma fille me ramène une fille à la maison. D'autant qu'elle me ramène jamais de garçon. Mais toi, on voit bien que t'es pas une gouine. Hein? Tant mieux.
Sauf qu'avec le temps, elle ne se quitte plus. Elles sont vraiment amoureuses. Et ça se voit. Et Philippe finit par s'en rendre compte. Ça ne lui plaît pas du tout. Et un jour, une violente dispute éclate. Et Philippe frappe sa fille et Amélie. Marie se dit, il est en train de ruiner ma vie. Et elle décide d'en finir avec lui. Une nuit, sans rien dire à Amélie, elle pénètre dans la maison de son père. Elle coupe l'alarme. Elle va dans le salon. Elle sait que son père a une arme dans un tiroir. Elle la prend. Elle la chambre. Elle entre à pas feutrés dans la chambre de son père. Et elle vide le chargeur en direction de son père. 13 coups de feu. Ensuite, elle dépose l'arme vide sur le lit et elle s'enfuit. Le lendemain matin, je reçois un coup de fil du substitut du procureur.
Dites, docteur, j'ai un monsieur qui a été tué par arme à feu. C'est sa femme de ménage qui l'a découvert en arrivant ce matin. Vous pourriez vous rendre sur place, s'il vous plaît ?
Depuis 30 ans que je suis médecin légiste, quand j'arrive sur une scène de crime, je procède toujours de la même manière. Je pose mon sac dans l'entrée, à côté de ceux du labo, autrement dit, en milieu sécure. Je mets mes mains dans mes poches pour éviter de déposer mes empreintes digitales. Et je fais le tour des lieux. Je cherche des éléments qui m'instruiraient sur l'état de santé du défunt. Un mot qu'il aurait laissé, des traces diverses comme des traces de sang, etc., etc. J'examine la pièce. Et puis je prends la température de la pièce. Et je note si le chauffage fonctionne, si une fenêtre est ouverte. Bref, je constate les conditions thermiques dans lesquelles le corps se trouve. Ce sera fondamental au moment d'estimer l'heure du décès. Et ensuite, et seulement ensuite, je me rapproche du corps. Je l'examine tel qu'il se présente, sans toucher à rien. Et je note tout. Position du corps, est-il couvert, jusqu'à quelle hauteur, quel type de couverture, drap ou édredon, de quelle qualité, combien de couches, y a-t-il des traces d'écoulement sur les draps ? Le corps de Philippe est en décubitus latéral gauche, autrement dit en chien de fusil, en position fœtale. C'est comme ça que la plupart des gens dorment. Son visage est tourné du côté de la porte d'entrée de la chambre. Il est couvert jusqu'au cou par un drap et une seule couverture peu épaisse. Je retire la couverture et le drap. Il est habillé d'un pyjama en tissu synthétique. Là-dessus, la juge d'instruction arrive.
Alors, docteur, t'en penses quoi ?
Ce que j'en pense ? Bah, qu'il est mort. C'est tout ce que je peux te dire. Je l'ai pas encore examiné. Mais bon, je vois des impacts de projectiles qui me font penser qu'on a utilisé une arme à feu. Là-dessus, pour déterminer l'heure du décès, je prends la température du corps. Bon, ça n'est qu'une première approximation, mais je dirais que le décès a eu lieu vers 23 heures. J'affinerai quand j'aurai le poids du corps, on le pèsera en salle d'autopsie. 23 heures donc, vous dites, docteur. Oui, c'est ça. C'est alors, ça colle pas du tout avec le programme de l'alarme, qui montre qu'elle a été coupée à 2h30 du matin. C'est très étrange. Quand elle est arrivée, la femme de ménage a trouvé l'alarme coupée. Ça l'a étonnée parce que la nuit, Philippe mettait toujours l'alarme. D'après elle, il n'y a que 3 personnes qui connaissaient le code. Philippe, elle-même, et Marie, sa fille. Une autopsie se déroule toujours de manière complète et systématique. Tout le corps de Philippe sera autopsié, même si on voit bien qu'une balle a traversé le crâne. Certains aimeraient, au nom d'un prétendu respect du corps, que je m'en tienne au crâne. Non, le droit pénal exige un niveau de certitude très élevé. Alors, premier constat. Marie a bien appris de son père. Toutes les balles ont touché le corps, certaines l'ont même traversé. Même à courte distance, sacré performant. Et dès l'examen des entrées et des sorties des balles dans le dos, je vois qu'il y a un problème. Toutes ont un aspect post-mortem. Pour dire les choses clairement, elles semblent dater d'après la mort de la personne. Parce qu'il y a très peu de sang qui a coulé de ses plaies. Je vous explique. Après la mort, il n'y a plus de sang, ni dans les artères, ni dans les capillaires. Il n'y en a plus que dans les veines. Pour être clair, si on découpe la peau d'un mort, le sang ne coule pas, parce que les capillaires sont vides. Et là, soyons clairs, il n'y a pas assez de sang autour des plaies de Philippe pour croire qu'il a été tué par balle. S'il vous plaît, vous m'aidez à le retourner ? Quand j'ouvre la cage thoracique, je découvre qu'une balle a traversé le cœur de part en part. Mais là encore, peu de sang s'est écoulé. J'espère qu'en ouvrant la boîte crânienne, j'aurai la réponse à ce mystère. Je commence par retirer l'os crânien à la scie à plâtre. J'ouvre la turmère, cette enveloppe qui entoure le cerveau, et c'est là que je découvre une hémorragie sous-dural de très grande ampleur. Elle a été provoquée par une rupture d'anévrisme, de ce qu'on appelle le polygone de Willis. Le polygone de Willis, c'est le carrefour où se retrouvent tous les vaisseaux qui irriguent le cerveau. C'est là que se répartit le sang vers les différentes zones. La rupture d'anévrisme a entraîné une hémorragie. L'hémorragie a créé une hyperpression sur le cerveau. Et comme la boîte crânienne n'est pas extensible, le cerveau s'est engagé dans ce qu'on appelle le trou occipital. Mettez votre main à l'arrière du cou. C'est bon ? Vous sentez le trou entre le bas du crâne et la première vertèbre ? C'est ça, le trou occipital. Le cerveau en hyperpression à cause de l'hémorragie cérébrale est venu se comprimer sur le pourtour de ce trou. Des zones du cerveau ont été écrasées, le sang ne pouvait plus passer, les neurones sont mortes, la respiration et le cœur se sont arrêtés. Et Philippe est mort. Vu la position dans laquelle on l'a retrouvé dans son lit, eh bien ça s'est passé pendant qu'il dormait. Il n'a pas senti ce qui lui arrivait. Et ça explique l'écart horaire entre le moment du décès, que j'ai évalué vers 23h, et l'arrêt de l'alarme vers 2h30. Quand Marie a tiré sur son père, il était déjà mort depuis plus de 3 heures. Et s'il était mort, eh ben elle ne l'a pas tué. Ça n'est pas un meurtre. On ne peut pas la poursuivre pour ça. Elle a eu beaucoup de chance. Espérons qu'elle saura en profiter. J'ai tiré cette histoire du livre du docteur Boxo aux éditions Kens, Les morts ont la parole. et qui est l'histoire de cette jeune fille qui pense avoir tué son père et qui, en fait, était déjà mort d'une hémorragie provoquée par une rupture d'anévrisme. C'est typiquement le genre d'affaire dans laquelle on aurait pu passer à côté de la vérité.
On aurait pu passer à côté de la vérité si on ne l'avait pas autopsié. Ceci dit, beaucoup de gens sont choqués par le fait que, alors que cette jeune fille avait une arme qu'elle a correctement tirée, qu'elle voulait tuer son père, et qu'elle était vraiment dans un processus d'assassinat, parce que c'est un assassinat, s'il avait été vivant, ça aurait été un assassinat, qu'elle n'ait rien subi, donc qu'elle n'ait pas été punie. Mais notre code pénal ne le permet pas. Ne le permet pas, que ce soit en France ou en Belgique, de toute façon on a quasiment le même, il vient de Napoléon, hein, 1811 pour le code pénal. Eh bien, cette idée, c'est que il y a un élément matériel et une infraction. L'élément matériel, c'est qu'il faut que la personne soit vivante pour pouvoir la tuer, sinon on ne peut pas la tuer, elle est déjà morte. Voilà, donc elle n'a pas été punie.
Vous dites ça et vous le dites bien parce que, en gros, je me mets à la place de la famille des victimes. Les gens disent, est-il nécessaire de démembrer le cadavre de mon fils, de ma fille, qui est déjà mort, de mon père, de ma mère? Vous entendez évidemment que c'est légitime, ça.
La demande est légitime. Mais si je mourais et que on passe à côté du fait que l'on m'ait tué, post-mortem, imaginons que je puisse encore y réfléchir, je n'en serais pas heureux. Et je crois que d'autopsier est le dernier service que l'on peut rendre à un mort, c'est d'aller vraiment à la recherche de la cause des décès. C'est pour le mort, mais c'est aussi pour la famille. Il faut que la famille le comprenne. Il n'y a rien de pire que d'enterrer un corps sans savoir vraiment de quoi il est mort. Et avec un doute, avec encore une suspicion. N'imaginez pas le nombre de gens qui m'écrivent en me disant « Je suis sûr que mon conjoint n'est pas mort de suicide parce que c'est pas possible. Il a jamais voulu se suicider dans sa vie, donc il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas détecté. Et on me refuse l'autopsie. » Nous, ce que nous faisons, c'est de permettre à tous ces gens d'avoir tous leurs apaisements quant à la cause de décès.
Oui, mais naturellement, l'être humain est fondé à penser que ce qui est important, c'est que le corps soit intègre. Alors aujourd'hui, bon, avec le fait que on réduise les corps en cendres, la question ne se pose pas de la même manière. Enfin, la grande idée du mort, c'est de le mettre dans son cercueil en entier, de l'enterrer en entier, et de venir le voir, comme pour lui parler.
Alors c'est vrai, mais vous devez savoir que le corps ne va de toute façon pas rester intact. Il va pourrir, c'est ce qu'on appelle la putréfaction. Il va putréfier. Et de toute façon, à partir d'un certain temps, ce corps, il ne sera plus qu'à l'état de squelette. Donc le respect que l'on doit avoir envers le corps, c'est de le traiter de façon tout à fait correcte. Et quand je l'autopsie, c'est ce que je fais. J'ai jamais rigolé d'un cadavre et j'ai interdit que ça se fasse. Et on le recoue ensuite de façon à le rendre ad integrum, pour qu'il puisse être visible éventuellement par la famille si elle veut le voir. Mais le respect du corps, ce n'est pas de ne pas y toucher. Le respect du corps, c'est de le traiter avec respect d'une part, et d'autre part de déterminer sa cause de décès.
Je pense que ce qui choque le plus les gens, en l'occurrence, c'est l'ouverture de la calotte crânienne. C'est-à-dire que d'aller avec cette scie, qui est une scie à plâtre en fait, qui est une petite molette qu'on fait tourner autour du crâne, décaloter le crâne, pour en extraire le cerveau. Tout est dans le crâne, tout est dans le cerveau pour les gens.
C'est vrai.
Extrêmement violent, encaissé.
C'est vrai. Le bruit que vous entendez, que vous avez mis sur le...
C'est le bruit d'une scie à plâtre.
Eh ben, c'est le bruit exact. Hein.
Ouais.
C'est le bruit exact. Et c'est vrai qu'ouvrir la boîte crânienne, c'est toucher vraiment à l'intimité, là. On est sur l'organe qui a fait en sorte que cette personne a pu fonctionner, réfléchir, penser, être, exister, sa philosophie, sa religion, sa façon de penser et d'exister, tout était là-dedans, il n'y a plus rien, il est mort. Et ce que l'on sait, ce dont on est certain, notamment avec la cryothérapie, la cryogénie plutôt, le fait de mettre les corps dans des cases froides, congelées pour les ressusciter, entre guillemets, plus tard, ce dont on est certain, c'est que les cerveaux sont grillés.
Oui.
Et qu'il faudra mettre d'autres cerveaux à la place, donc ce n'est plus la même personne. Et d'ailleurs, quand on parle de greffe de cerveau, on ne parle plus aujourd'hui de greffe de cerveau, on parle de greffe de corps. C'est donc bien la preuve que c'est le cerveau qui est, comme vous le dites très bien, la source de la personnalité, la source de la personne. C'est vrai que c'est là que c'est le plus touchant. Et quand on fait des autopsies, quand il y a quelqu'un qui n'est pas habitué à l'autopsie, qui est un stagiaire par exemple, c'est le moment où on ouvre la boîte crânienne qui est le moment le plus dur à subir pour lui, et on a parfois en salle d'autopsie des pertes de connaissance.
Pour l'avoir vu moi-même, voilà. Je dis que c'est le moment le plus difficile, et après c'est le plus intéressant, parce que s'il y a bien quelque chose qui ne ressemble pas à l'idée qu'on s'en fait, C'est bien le cerveau.
Tout à fait.
Le cerveau est un bloc extrêmement dense. C'est un seul bloc. Ça part pas dans tous les sens. On le retire de manière intégrale, d'un coup.
Oui. Sans le séparer du cervelet, d'ailleurs.
Oui.
On va couper en dessous de la jonction entre le cervelet et la moelle épinière. C'est là qu'on coupe. Donc, on prend le bloc cerveau-cervelet en une seule pièce. Et effectivement, comme vous dites. Et alors, quand vous l'avez en main, c'est un organe qui est pas lourd. Hein. Il fait maximum 2 kilos. Et vous constatez sa fragilité, c'est extraordinaire. Il faut pas pousser, il faut le manipuler avec beaucoup de précautions, parce que le pousser dessus comme quand vous appuyez sur le bouton pour appeler l'ascenseur, vous le traversez de part en part.
Oui.
Donc le cerveau est vraiment une structure hyper hyper fragile.
Alors il y a une deuxième chose que tout le monde a appris, moi le premier, c'est que après la mort, le sang se rétracte dans le corps et donc il quitte la surface du corps pour se concentrer dans les veines. Ça,
tout
je pense que c'est une énorme découverte.
Alors, c'est une découverte pour beaucoup de monde, et ce, d'autant plus que nous baignons dans une ambiance qui est celle de l'Antiquité, où sévissaient des gens comme Galien, par exemple, Hippocrate, qui étaient tous persuadés que dans la partie gauche du cœur, et celle qui est branchée sur les artères, circulait de l'air. Et ils avaient eu cette observation à partir, justement, d'observations sur des cadavres. Il n'avait jamais vu un cœur vivant en train de battre. C'est depuis lors qu'on le sait. Donc ça date depuis très longtemps qu'on le sait. Mais les gens ne se rendent pas vraiment compte. Il y a aussi d'autres légendes. Par exemple, le fait que le sang à l'intérieur du corps, en post-mortem, sédimente. Ça veut dire que les parties les plus lourdes du sang, les globules rouges et les globules blancs, se trouvent dans les parties basses et le sérum se trouve dans les parties hautes. En fait, à l'intérieur du corps, le sang ne sédimente jamais. Il y a beaucoup de pensées comme ça. Mais voilà. C'est la réalité objective.
Et donc la différence, parce que évidemment la difficulté, c'est de faire la jonction avec cette expression qu'on emploie tout le temps. On a trouvé le cadavre dans une mare de sang. Donc au moment de la mort, le sang sort. À partir de quel moment il se rétracte et ne sort plus?
Il ne sort plus du corps à partir du moment où le cœur ne bat plus. S'il sort encore du corps, c'est qu'il y a un écoulement qui se fait gravitationnel.
Oui.
Ça veut dire que le sang a rempli une cavité, la cavité pleurale par exemple, la cavité du thorax. Le coup de feu ou le coup de couteau a été donné plus bas que le niveau gravité et le sang continue à s'écouler par la plaie. Ça arrive, ça peut arriver. Mais ce que vous voyez dans les films, le sang qui s'écoule doucement alors que le type est mort à l'arrière du corps, ça c'est faux, ça arrive jamais.
Et je rappelle que j'ai tiré cette histoire de votre livre, Docteur Boxo, Les morts ont la parole, aux éditions Kent.
Europe 1, on de la raconte.
Il est 14h, on est en été, il fait beau. Philippe décide d'aller faire une petite promenade avec sa chienne Elsa, un petit chien noir que Nadine, sa femme, lui a offert pour la Saint-Valentin. Philippe avait envie d'avoir un chien pour lui, parce que sa femme a trois mâles. Ils n'ont Dieu que pour elle. Allez, mon Elsa, hein? On va promener. Oui, ma chérie, oui, t'es une jolie chienne. Allez, hop, on y va. Ce jour-là, Nadine rentre tard. Il est 17h. Philippe ? Je suis là. Pas de Philippe. Et pas d'Elsa non plus. Elle l'appelle sur son portable. Pas de réponse. Mais ça ne l'inquiète pas outre mesure, il ne répond jamais. Alors elle sort son ordinateur et elle cherche à le localiser grâce au traceur qui permet de retrouver un téléphone perdu ou volé. Ouf ! Pas de souci, il est sur le chemin qu'il emprunte à chaque fois. Sauf qu'une demi-heure plus tard, il n'a pas bougé. Et là, pour le coup, Nadine est inquiète. Alors elle attrape ses trois clébards et elle part à sa rencontre. Elle fait 100 mètres. Et là arrive Elsa, seule et sans laisse. Nadine fait quelques pas de plus et elle découvre Philippe à plat ventre en plein milieu du chemin. Philippe, Philippe, tu m'entends? Philippe. Et là, elle veut prendre son pouls au niveau de la carotide. Elle plonge sa main vers son cou et elle la ressort couverte de sang. Philippe a une plaie béante au niveau du cou. Et il est mort.
Allô, docteur? Le procureur procureur à l'appareil. Dites-moi, j'ai un meurtre sur les bras. Vous pourriez vous rendre sur les lieux, s'il vous plaît ?
Quand j'arrive sur place, le laboratoire de la police technique et scientifique est déjà là.
Bonjour, docteur. Laissez-nous encore quelques minutes et il est à vous.
J'en profite pour explorer les abords du cadavre. Le chemin sur lequel la victime est couchée est en contrebas d'un jardin. Un jardin qui a dû être tondu récemment parce que ça sent l'herbe coupée.
Docteur, à vous de jouer.
La plaie sur la face antérieure du cou est très profonde. Mais à part ça, on ne voit aucune trace de lutte ou de défense. Comme si quelqu'un était arrivé en silence par derrière et lui avait tranché la gorge avec une force très importante avant de s'enfuir. Ce genre de meurtre est en général commis par un homme. Je dis ça parce que Nadine, sa femme, va être inévitablement sur la sellette. L'autopsie commence par un nouvel examen extérieur. Et puis, scalpel en main, corps couché sur le ventre, je réalise une incision qui part de la nuque jusqu'à la pointe des fesses et que je poursuis sur les deux jambes jusqu'au talon. Et je fais la même chose sur les épaules. Et après, avec mon scalpel, je décolle la peau pour voir les masses musculaires. Je cherche des lésions profondes qui n'étaient pas visibles à la surface du corps. Et il n'y en a pas. Et après, je recoue tout ça. Ça prend souvent beaucoup plus de temps que l'examen lui-même. Mais par respect pour le défunt et pour ses proches, nous nous devons de restituer le corps tel que nous l'avons reçu. Ensuite, j'ouvre au scalpel la peau du crâne, d'une oreille à l'autre, pour visualiser la boîte crânienne et vérifier si Philippe n'a pas reçu un coup qui aurait produit un hématome profond, voire une fracture de la voûte crânienne. Ça n'est pas le cas. Et après, eh bien, j'ouvre le crâne. Et je découvre le cerveau. Je cherche une hémorragie ou la moindre trace de traumatisme. Et ensuite, j'extrais le cerveau pour visualiser la base du crâne et une éventuelle fracture à cet endroit qui passerait nécessairement, vu sa localisation, inaperçu à l'examen extérieur. Rien de particulier. Alors je passe à la prochaine étape. Avec mon scalpel, je fais une incision qui va du menton jusqu'au pubis et d'une épaule à l'autre, ce qui fait une sorte de croix. Et me voilà face à la cage thoracique et à l'abdomen. L'abdomen, ce que vous appelez le ventre, est facile d'accès puisqu'il n'est recouvert que par des muscles. En revanche, pour accéder au contenu du thorax, il faut retirer le sternum en coupant à la pince les côtes qui s'y amarrent. Voilà. Je retire les poumons, je retire le cœur, je les examine, rien de particulier. J'en profite pour jeter un œil à l'arrière de la colonne vertébrale, et puis je me penche sur le cou. C'est un moment clé, puisqu'a priori, Philippe est mort d'une blessure au cou. Je n'ai jamais vu ça. Jamais.
Regarde. Regarde, le cou est sectionné jusqu'à la vertèbre. Regarde, la pomme d'Adam est carrément coupée en deux.
Et c'est pas tout. La veine jugulaire et l'artère carotide droite sont également sectionnées.
Bien. Ce monsieur est mort d'une hémorragie massive suite à la section de l'artère carotide et de la veine jugulaire. Par quel moyen ? Une arme tranchante ? Pour arriver à tels dégâts, le coup a dû être porté avec une force absolument inouïe. Hein. C'est pas sa femme qui a fait ça. Vous allez encore me traiter de sexiste, mais si je dis ça, croyez-moi, c'est le fruit de l'expérience.
Oui, il y a des différences très nettes dans la manière de tuer selon que l'auteur est un homme ou une femme. Cela dit, ces différences ne sont que statistiques. Un cas isolé n'est pas une statistique. Mais bon, pour moi, ça n'est pas Nadine, sa femme, qui a pu porter ce coup. Et d'ailleurs, elle sera vite mise hors de cause. Voilà, fin de l'autopsie. Tous les organes sont remis en place et le corps refermé par des points de suture. Et maintenant, place à l'enquête. Le propriétaire du jardin à côté duquel le corps de Philippe a été retrouvé est interrogé. Il s'appelle Manuel. Moi, j'étais en train de tondre ma pelouse quand je l'ai vu passer. J'ai fait un petit signe, quoi, c'est tout. Quelle heure était-il? Vous vous en souvenez? Il était 14h30, je m'en souviens, parce que mon tracteur, il est tombé en panne juste après. En panne de quoi? C'est la lame. Elle a heurté une grosse pierre et puis il s'est cassé. Et c'est là que le juge nous demande, le labo et moi, de retourner sur place. Quand nous arrivons, plus rien n'indique qu'un drame s'est déroulé là. Le chemin sur lequel Philippe est mort est bordé des deux côtés par un talus. D'un côté, le talus s'achève par le jardin de Manuel. De l'autre, il s'achève à 2 mètres de haut par le début d'un bois touffu. Impossible qu'une personne s'y soit cachée pour sauter sur Philippe. Les gars du labo sont venus avec un détecteur de métaux. Et donc, ils se mettent à la recherche de l'arme qui aurait éventuellement été laissée par l'auteur. Chou blanc. Et c'est là que, intrigué par notre présence, Manuel, le voisin, sort pour nous saluer. Ah, bonjour, monsieur. Ah, vous tombez bien. Je peux rentrer dans votre jardin pour photographier la scène de crime depuis un point enlevé? Ah oui, oui, oui. Pas de problème. Et pendant qu'ils prennent les photos, moi je parle avec Manuel de son tracteur tondeuse qui est tombé en panne. Oh c'est bien dommage qu'il soit tombé en panne parce que je venais de le faire la révision. J'ai changé la bougie, rechargé la batterie, j'ai aiguisé les lames. Et il est réparé maintenant? Oui, j'ai pu finir la pelouse. Et c'est sur quoi qu'il a buté? Venez voir, je vais vous montrer. Et là, Manuel me montre une grosse pierre fichée dans le sol qui dépasse d'une dizaine de centimètres. Il faudra qu'un jour je creuse pour la sortir avant qu'elle casse encore cette fichue lame. Ah bon? La lame s'est cassée? Non, maintenant elle est plus cassée, mais j'en ai mis une nouvelle. Il manquait un morceau. Et à ce moment-là, me vient une idée complètement folle. Au point où on en est. Dites-moi, monsieur, vous pensez qu'il a encore la lame cassée, votre réparateur, ou vous l'avez reprise vous-même? Oh non, c'est lui qui l'a. Et nous voilà partis chez le réparateur qui est à 400 mètres de là. Sur place, je téléphone au juge qui ne comprend pas très bien où je vais en venir et je fais saisir la lame. À l'examen, la lame est pliée et sectionnée, c'est-à-dire que son extrémité est manquante. Dites-moi, monsieur, vous auriez une lame intacte que je puisse mesurer la taille du morceau qui manque? Je note que le morceau manquant est recourbé à son extrémité, qu'il mesure à peu près 12 cm de long et qu'il est pourvu d'un bord tranchant, surtout s'il est aiguisé. Ce qui est le cas, puisque le tracteur de Manuel sortait de l'entretien. Et donc, nous retournons sur place à la recherche du morceau manquant de la lame du tracteur. Arrivé sur place, je me mets là où Philippe a été retrouvé. Un membre du labo se met à l'endroit de la pierre qui sort du sol. Et un troisième, armé de son détecteur de métaux, se met dans l'axe pour chercher en hauteur, dans le talus, la lame du tracteur. Et il la trouve. La veille donc, au moment où Philippe passait avec son chien, Manuel était en train de tondre sa pelouse. Ils se sont salués. Puis Manuel a été distrait par son tracteur qui venait de buter contre une grosse pierre, ce qui l'a empêché de continuer à tondre. Au même moment, sans que Manuel s'en aperçoive, la lame brisée du tracteur a été éjectée à très grande vitesse au ras de la pelouse, au-delà du chemin creux. Et en passant, elle a atteint Philippe au cou par son bord tranchant. Elle lui a sectionné le cartilage thyroïde, la veine jugulaire et l'artère carotide droite, causant une hypovolémie massive et rapidement mortelle. C'est l'un des cas les plus dingues que j'ai connus. On était parti pour un homicide pur et dur, et on se retrouve avec un accident peu banal. Je vous ai raconté une histoire tirée des aventures professionnelles du docteur Philippe Boxeau, qui est un médecin légiste en Belgique. Et c'est avec vous, docteur Boxeau, que je vais la débriefer. C'est une histoire qui est tirée de votre livre « Entretien avec un cadavre » aux éditions Kens, qui est donc l'histoire de cet homme qui meurt mystérieusement en promenant son chien et qui en fait a été tué par un morceau de la lame de la tondeuse à gazon du voisin. Là encore, j'avoue que j'ai été très très surpris de voir que vous retourner sur place, alors que le cadavre n'est plus là, et que donc on peut imaginer qu'il n'y a plus de place pour un médecin légiste. Il n'y a même plus, dites-vous, de traces de quoi que ce soit sur ce chemin, et vous y retournez avec des gens du laboratoire de police scientifique.
Ça arrive régulièrement qu'on le fasse. L'œil du médecin légiste n'est pas l'œil du labo. Et dans la mesure où j'ai fait l'autopsie du cadavre, je connais les tailles, je connais le poids, je connais tout le corps de celui que j'ai autopsié forcément. Et donc c'est plus facile pour moi de le remettre en situation que pour le labo qui a pris les photos, qui a été bien au courant de tout ce qui se passait, mais qui n'est pas médecin. Donc je trouve que, et c'est le magistrat qui a eu cette idée-là, ça n'arrive pas tous les jours.
Quand même.
Ouais, non, mais c'était tellement particulier que c'est lui qui a eu l'idée de dire, allez, doc, va avec. Va voir, moi je comprends rien à cette histoire. Pourquoi ? Parce que le chemin était assez long. Et on imaginait mal un auteur arriver même en courant par derrière sans faire de bruit, en manière telle que la victime ne se retourne pas. On n'imaginait pas non plus qu'il puisse dévaler la pente du petit bois parce qu'elle n'était guère accessible. Et en plus, on n'avait pas de traces non plus là-bas. Donc, il fallait trouver une solution. Et vu notre perplexité à tous dans ce dossier-là, il faut dire aussi que la plaie était un peu particulière. C'est pas une belle plaie de coups de couteau comme on en voit, vous savez, avec des bords bien nets, etc., comme vous en avez peut-être déjà vu. C'est une plaie qui était plutôt déchirée. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui était passé par là, mais avec une certaine violence, et qui avait explosé toute cette région du cou. Donc, vu la perplexité de tout le monde, le procureur du roi chez nous, de la République chez vous, a préféré m'envoyer avec. Et c'était parti, et voilà, c'est comme ça que je m'y suis retrouvé.
Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est vous qui discutez avec le voisin, c'est à vous qu'il montre cette pierre qui dépasse, c'est avec lui que vous parlez de mécanique, et c'est avec lui que vous allez chez le réparateur qui a changé sa lame.
Il n'est pas venu avec nous.
Mais, ah, il n'est pas venu.
Non, mais je suis...
Mais vous y allez.
Ah oui, moi j'y vais. En fait, il y aura un chien avec un chapeau, je parle avec. Ça faut savoir, j'adore parler, voilà. Je suis un grand bavard. Donc je me retrouve face à un bonhomme qui, comme moi, n'a rien à faire d'autre que d'observer ce que le labo est en train de faire, et j'ai le même robot tondeuse que lui. C'est pas un robot, c'est un tracteur tondeuse. J'ai le même tracteur tondeuse que lui, exactement le même. Et moi, je suis nul avec mon tracteur tondeuse, il tombe tout le temps en panne. Donc j'avais un...
Parce c'est une que conversation de propriétaire de tondeuse.
Voilà, exactement. Et je papote avec le gars, et il me dit « Et votre tracteur, oui, il tombe souvent en panne ?» Je lui fais « Parce que moi, chaque fois que je tonce, tous les samedis, c'est une catastrophe, je dois appeler mon réparateur. » Parce que je suis vraiment nul dans la manière de le gérer. Et il m'explique « Non, mais voilà, il a buté contre la pierre, etc. Ben, montrez-moi un peu la pierre. Moi, j'ai eu le même coup, mais ma lame a cassé, mais il n'y a pas eu de projection. » Lui, sa lame a cassé, le tracteur était soulevé à cause de la pierre, et la lame est partie dans l'axe de rotation.
Mais en vérité, vous avez déjà une intuition sur le rôle de la tondeuse?
Non, j'en ai pas. C'est vraiment quand il m'a parlé de ce tracteur que ça fait tilt. Et le labo n'avait pas d'intuition non plus, les gars du labo qui étaient avec moi. Et si je n'avais pas été intrigué par ce tracteur qui est le même que le mien, j'avoue qu'il y a des chances qu'on n'aurait pas trouvé.
Alors sur cette affaire qui en plus est un accident, ça on le sait pas au début, vous allez une première fois sur place. Vous réalisez une autopsie, ça dure 4-5 heures une autopsie ?
2h30, 3h, ça dépend des lésions. Ici c'est une lésion simple, donc 2h30, 3h.
Vous y retournez sur place ? C'est tout près de chez vous ou c'est très loin ?
C'est pas très loin, bon, c'est à 20 kilomètres.
Au total, cette affaire vous prend combien de temps ?
Oh là là, bonne dizaine d'heures, 10 à 12 heures, oui.
Combien d'autopsies par semaine alors ?
On en fait 2 seulement chez nous,
Pas plus.
Non. Il n'y a pas une grande... En fait, le problème que nous connaissons à Liège, en Belgique, comme dans d'autres régions du Royaume, c'est que on n'aime pas autopsier. Enfin, nous, les médecins-légistes, on aime bien. Mais les magistrats n'aiment guère. Et donc, ils estiment que, comme on en parlait tout à l'heure, que c'est une manière de préserver le corps, de le respecter, que de ne pas autopsier. Moi, je vois les choses autrement, mais c'est toujours un grand sujet de discussion entre nous. Et donc, on autopsie que quand il faut vraiment. Et il arrive que je demande à pouvoir réaliser une autopsie, que le magistrat me dise non, sur le plan policier, je n'ai pas de raison, ou judiciaire, je n'ai pas de raison de l'autoriser.
Pourquoi ? Pour faire l'économie des moyens,
il y a une économie financière de votre
temps, oui, financière.
Ah oui, ça, ils sont très tenus par l'argent et l'État belge, comme vous le savez, comme tout, à peu près tous les États européens, ont des problèmes de sous, de problèmes de finances, de financement. Et donc, voilà, on économise 1000 balles. C'est 1000 euros une autopsie, 500 pour chacun des deux médecins, puisqu'on doit toujours être deux. C'est une obligation. c'est pas écrit dans la loi, mais c'est une obligation vraiment scientifique que d'être deux. Et donc, c'est 1000 balles. Et c'est 1000 balles qu'ils économisent de cette manière-là.
Alors, vous racontez cette autopsie en détail. C'est une occasion de faire de...
C'était le but.
De la pédagogie. Donc, vous racontez les incisions devant, derrière, la fracturation du sternum, l'ouverture de la boîte crânienne. Quand on vous lit, c'est une boucherie.
Eh ben, c'est pas le cas. Du tout. C'est pas une boucherie. Ben, vous en avez déjà vu, donc oui. Vous connaissez.
Ça gicle pas, c'est ça.
Ah non, non. Oui. Ça gicle pas du tout. Mmh. Et on fait ça proprement. Mmh. Mais c'est vrai qu'on va observer tous les organes. Il s'agit de ne rien rater.
C'est-à-dire que systématiquement, oui. Vous allez jusqu'à la colonne vertébrale.
Oui.
Par exemple, en ce qui se concerne le corps.
Toujours.
Systématiquement.
Oui.
Vous enlevez tout.
Et on remet tout ensuite.
Alors justement, vous remettez tout dans quel état c'est ? Est-ce que vous repositionnez tout à sa place ?
Alors, tous les organes doivent être ouverts.
Et on garde un morceau ?
Et on garde, pas de tous, on garde ce qui est utile. Je vais garder un morceau de foie, un morceau de rein et le contenu de l'estomac, parce que ça, je vais l'envoyer en toxicologie. Pourquoi ? Bah, parce que le foie est une centrale d'intoxication, le rein une centrale d'excrétion, et l'estomac, s'il y a eu un poison, et que ce poison violent, j'en aurai encore dans l'estomac.
Donc, et le cerveau aussi, un petit morceau ?
Je prends jamais.
Ah bon ?
Non. Et je n'ai jamais trouvé quelque chose qui se concentre dans le cerveau que je ne pouvais pas découvrir ailleurs.
D'accord.
Donc je ne le fais pas. Et ensuite, je remets les organes à leur place.
Vraiment à leur place ?
Oui, oui, oui.
On ne remet pas tout en vrac ?
Bah non. Non, on a toujours la place qui est là, elle est libre. Mmh. Autant l'occuper. Hein. Mmh. En plus, c'est une place qui est conformée pour l'organe en question. Donc
mais c'est vous qui faites ça ou c'est le garçon de laboratoire ?
J'ai pas de garçon de labo.
D'amphithéâtre.
J'ai pas de garçon de labo.
D'accord.
Donc c'est moi qui fais ça.
Et c'est vous qui recousez.
Et c'est moi qui recous.
Avec un goût, enfin avec une mission esthétique ou pas du tout ?
Non, l'esthétisme, on le cherche pas nécessairement. On cherche à ce que ce soit propre et que on ne voit plus. Par exemple, vous savez, quand vous coupez la peau, vous avez plusieurs couches à la peau et la couche inférieure, inférieure, c'est à 1 cm de profondeur maximum, c'est une couche de graisse.
Oui. Et là, jaune.
Oui, jaune, c'est ça. Et il arrive très souvent que des cellules adipeuses, qu'on appelle les adipocytes, donc la graisse, ressortent par la plaie qu'on a fait. Je les coupe, je les retire pour que ce soit propre, pour que ce soit visible par la famille.
Alors vous dites quelque chose, et on va terminer là-dessus, de très mal pensant. Vous dites qu'il y a une différence majeure entre une femme et un homme qui tue, que ça se voit. Mm-hmm. Expliquez-nous ça.
C'est une différence qui existe dans les articles scientifiques qui ont été publiés à cet égard, des articles de criminologie. Je suis aussi professeur en criminologie à l'Université de Liège et j'ai eu l'occasion de voir cette littérature qui décrit clairement que les hommes ont envers les surtout envers les femmes d'ailleurs, une attitude qui est beaucoup plus violente que les femmes qui ont une attitude plus douce. Et c'est quelque chose que l'on voit aussi dans les mécanismes, non pas seulement de meurtre, mais également de suicide. L'homme va plus se pendre, la femme va plus se noyer. Il y a des différences, il y a des différences. Et voilà, on constate que les femmes agissent de manière moins violente. Peut-être parce que elles ont moins de force que les hommes. Et donc, d'habitude, hein, pas toujours, mais que par rapport à un homme qu'elles voudraient tuer, leur mari, en l'occurrence c'est plus souvent le cas, elles vont s'y prendre autrement, de façon plus douce, de façon plus discrète. Voilà.
Ce qui vous amène à écrire dans les conclusions de votre rapport, j'émets l'hypothèse que ce crime, compte tenu de sa nature, ait été commis par une femme.
Je ne mets pas dans le rapport.
Oui, c'est impensable.
Non, oui, c'est totalement impensable.
Vous le dites à l'oreille du procureur du roi.
Je le dis à l'oreille du procureur du roi. Exactement, vous avez raison. Ça, mais n'oublions jamais que ça, c'est une statistique. Et une statistique, c'est sur une population. Chaque individu n'est pas une statistique. Donc chaque cas est différent, il faut le réfléchir de manière différente.
Merci beaucoup.
Merci Philippe de m'avoir invité.
Boxo, de m'avoir autorisé à adapter ces histoires tirées de deux de vos livres qui s'appellent Les morts ont la parole aux éditions Kens et Entretien avec un cadavre chez le même éditeur.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.
Le prochain récit de Christophe Ondelat, eh bien c'est aujourd'hui, jeudi. Il nous racontera une histoire sans mort, cette fois, qui se déroule en 1905 à Bordeaux. L'histoire d'Émile Canabi, négociant en vin, qui tombe malade, et on se demande si sa femme l'a empoisonné. En tout cas, c'est cette histoire qui a inspiré François Mauriac pour son roman Thérèse d'Esquerou. Rendez-vous donc pour Ondelat raconte, dès 14h sur Europe 1. Dans un instant, Pascal Pro et vous en nouvelle diffusion, vous qui réagissez chaque jour de la semaine entre 11h et 13h sur des sujets d'actualité. Ce mercredi, le docteur Alouche est venu nous parler de son livre « Sucre, l'ennemi public numéro 1 ». Prédiabète, diabète, prise de poids, agissez avant qu'il ne soit trop tard, aux éditions Albin Michel. Mais avant de se replonger dans l'émission, musique avec Alain Chamfort, voici La Grâce.
Ne serait-ce qu'une fois, hélas, ne serait-ce qu'un instant fugace, les mains sales, les ongles pleins de crasse. Aurais-je su toucher la grâce, ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse, comme on pousse une vieille carcasse. Aurais-je su toucher la grâce, aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, aurais-je sans la voix cherché, parler devant parlant de moi. Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment, ne serait-ce que de guerre lasse, sans ne plus y croire des masses, tabassé par la vie qui tabasse. Aurais-je su fondre la glace, trouver une voie dans les congères, jusqu'au cœur de mes congénères, avant que je tombe en disgrâce, aurais-je effleuré cette grâce, aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, aurais-je sans la voix cherché, parler devant parlant de moi, aurais-je su toucher les gens autant que ceux.
Alain Chamfort avec La Grâce, un extrait de son dernier album en date et même de son dernier album tout court, hein, comme il aime à le dire, intitulé L'Impermanence. Notez qu'il sera sur scène le 6 juin prochain au Point Éphémère à Paris. D'autres dates françaises sont évidemment prévues. L'impermanence, tout est impermanence, dit-il, tout est en évolution, un petit peu à l'image de l'actualité et de l'émission Pascal Pro et vous, que nous allons redécouvrir à présent. Vous savez que vous avez la parole pour réagir sur des sujets d'actualité du lundi au vendredi entre 11h et 13h sur Europe 1. Voici donc l'émission de ce mercredi et je vous souhaite une excellente nuit avec nous.
Bonjour Géraldine Hamon.
Bonjour Pascal, bonjour
à tous. Merci d'être avec nous. Bonjour Julien Blanc.
Bonjour Pascal.
Qui est avec nous aujourd'hui puisque la Miss Fabrice Laffitte n'est pas là. C'est le jour de CSE et si vous nous suivez régulièrement, c'est également jour de CSE pour Mélanie Dez.
Émilie.
J'ai dit qui ?
Mélanie.
Émilie Dez, c'est étrange. Hein, c'est
ah oui, très étrange.
Bon, vous avez entendu Robert Guénèque qui est avec nous. Olivier Guénèque.
Robert Guénèque. Il n'y a plus aucun respect.
Attendez, Robert Guénèque.
Oui, vous avez raison.
Et puis, je salue évidemment notre camarade Laurent Tessier qui est
enchanté
à la rédaction en chef de cette émission. Nous allons être dans une seconde avec Guy Roux, le mythique entraîneur de la JOCR. Il s'est confié à nos confrères du Figaro et ça déménage. Olivier Delagarde en a parlé ce matin sur Europe 1 dans sa revue de presse. Écoutez Olivier.
Le papy du foot français reçoit les reporters du journal, Baptiste Després et Gilles Festor autour d'une bonne table à Auxerre. Chablis, escargot en godet, magret de canard au fruit. Mais le plat de résistance, c'est quand les journalistes interrogent sur ses regrets comme entraîneur. Réponse de Guérou, ne pas avoir gagné la Coupe d'Europe avec Auxerre. En 2005, on a été volé en quart de finale par les Russes du CSKA à Moscou. L'arbitre était acheté, affirme-t-il. Je vais vous raconter une anecdote qui pourrait nous valoir la prison, poursuit Guérou. Après le match aller, j'avais des suspicions et j'ai demandé à un gars de chez nous d'aller fouiller les sacs des arbitres allemands pendant le match. Il revient me voir blême et me dit « il y a des montres superbes avec des rubis ». J'avais 10 minutes pour prendre la bonne décision. J'ai pris la mauvaise, je ne les ai pas dénoncées et j'ai été plus imbécile encore, ajoute-t-il, en ne piquant pas les montres.
Sacré Guillaume.
Voilà ce que l'on peut confier quand on a 85 ans et plus grand-chose à perdre.
Mais c'était ce matin sur Europe 1 et écoutez d'ailleurs chaque matin la revue de presse qui est formidable de l'ami Olivier Delagarde vers 8h40. Et moi, ça me fait très plaisir d'être en ligne avec Guy Roux. Guy, bonjour.
Bonsoir Pascal.
Que de souvenirs et quel plaisir d'être avec vous, puisque lorsque je suis arrivé dans ce beau métier de journaliste en 1988, je suis allé plusieurs fois à Auxerre et vous vouliez me mettre dans la mare.
Ah oui, on a eu quelques aventures, bien sûr. Vous étiez un jeune journaliste cruel. Et moi, je me défendais.
Bon, en tout cas, on a tous beaucoup de tendresse pour vous et puis beaucoup de respect parce que ce que vous avez fait avec Auxerre est unique au monde, c'est-à-dire prendre un club en dessous de la division d'honneur et devenir champion de France avec lui. Il n'y a pas d'exemple de trajectoire de ce type. Mais ce que vous dites, en revanche, au Figaro nous intéresse parce que ce match qui aurait été acheté, puisque l'arbitre aurait été corrompu, dites-vous, lorsque vous avez rencontré le CSKA Moscou. Est-ce que, selon vous, c'est durant ces années-là, c'était pratique courante que d'acheter les arbitres lors de certains matchs de Coupe d'Europe, Guirou ?
Ah, je ne peux pas généraliser. J'ai un exemple type parce qu'on est tombé dessus. Bon, j'ai subi, comme d'autres, un certain nombre de pénalties un peu curieuses dans différents matchs, mais je n'ai pas de preuves comme j'ai eu ce jour-là.
Et ça s'était manifesté comment sur le terrain ?
Ben non, on avait de toute façon... Il y avait eu le match aller avant, qui avait été curieux. Il y avait eu un pénalty avec un joueur un Brésilien de Moscou qui était tombé à 5 mètres de tout Auxerrois, il y avait eu pénalty. Il y avait un joueur qui avait protesté, donc il avait été exclu. On avait joué à 10, on avait pris 4-0. Et même à 4-0, je voulais remonter. Je voulais avoir 2 buts par mi-temps et puis jouer les prolongations. Et c'est ce match-là. Mais je n'ai pas réussi à gagner le match, à remonter. Mais bon, on a été éliminés. C'est tout.
Bon, c'était en 2005. Il y a une autre erreur d'arbitrage qui est restée dans nos mémoires. Le match était d'ailleurs retransmis sur TF1. C'est la volée de Lilian Lasland à Dortmund. Et je crois que l'arbitre s'appelait Lopez Nieto, si mon souvenir est exact. Ce match-là, c'est une simple erreur d'arbitrage, selon vous, ou il
oui,
pourrait...
Oui, absolument. Analyser froidement, c'est une appréciation... il y a un pied haut de Lilian Lasland qui est un garçon très grand, 1m90. Il fait un pied haut peut-être à la hauteur de la tête d'un adversaire. Alors, mon opinion, c'est qu'il était à distance de l'adversaire, et l'opinion de l'arbitre, c'est qu'il était très près de l'adversaire. Donc, que c'était dangereux. Ça, c'est pas pareil. C'est une appréciation dans laquelle nous ne sommes pas d'accord. C'est pas pareil.
Et puis, je vous ai lu avec beaucoup d'intérêt, parce que vous parlez de Mbappé. Vous êtes ou sévère ou lucide. Chacun pensera ce qu'il veut. Mais vous dites Mbappé est loin de Platini et même de Zidane, même en efficacité. Il suffit de regarder les chiffres. Il est au-dessus, dites-vous. On verra sur la durée. Il est jeune, mais Platini a flambé jusqu'à 33 ans. Zidane, bien au-delà des 30. Vous dites qu'effectivement... Dans le jeu, il n'a pas la même influence. Mais s'il ne l'a pas aujourd'hui, il ne l'aura sans doute jamais, hein, puisque c'est peut-être pas le même registre.
Si, c'est un garçon qui travaille bien et beaucoup à l'entraînement, semble-t-il, qui se donne la peine de vivre comme un athlète professionnel doit vivre. Et donc, il va constamment progresser. Il est meilleur en ce moment qu'il n'était il y a 2 ou 3 ans. Et donc, il va continuer, il va améliorer. Et comme il le sait qu'il doit s'améliorer, il va s'améliorer, c'est certain. Enfin, il est déjà... C'est que des notes au-dessus de 15 quand je note, hein. Sauf le jeu de tête.
Giroud, évidemment, vous êtes indissociable de l'histoire d'Auxerre, je le disais. Auxerre va remonter, a priori, en Ligue 1. Est-ce que vous êtes...
Je ne sais pas.
A priori.
Il y a un magnifique championnat de Division 2 cette année avec... beaucoup de bonnes équipes, parce qu'il y a 2 qui montent et 4 qui font les barrages, je crois. Donc ça intéresse beaucoup de monde, ça intéresse la première moitié du tableau. Donc tout le monde se bat bien jusqu'au bout. Et puis comme la deuxième moitié risque les descentes, ça se bat bien aussi. Donc on a un beau championnat, on a beaucoup de monde dans les stades, on a à peu près l'affluence qu'avait la première division il y a 5 à 10 ans. Il y a des stades pleins, Saint-Étienne plein pour un match de deuxième division, Auxerre plein, comme ça n'a jamais été. Et puis il y a un perfectionnement qu'il n'y avait pas. Jadis, pour acheter les billets, il faut faire la queue à un guichet, etc. Maintenant, avec un appareil magique, vous savez, 3-4 coups de doigt et vous avez commandé votre abonnement pour l'année. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'abonnements que jadis.
Giroud, est-ce qu'il y a une équipe au monde, aujourd'hui, en Europe, qui vous fait encore vibrer ?
Oui, il y en a diverses. Même en France, Paris Saint-Germain, lorsqu'il s'en donne la peine, me fait vibrer. Brest m'a fait vibrer plusieurs fois cette année, et d'autres clubs quand c'est les meilleurs matchs. En Europe, j'aime beaucoup Liverpool. J'aime beaucoup son petit ailier égyptien. Comme vous c'est écrit, j'aurais bien aimé l'avoir à la Auxerre. J'aime aussi la manière de Manchester City, garder la balle. C'est un perfectionnement. C'est du football qui ressemble au handball. Maintenant, on ne perd plus la balle quand on l'a dans les pieds. Donc évidemment, parfois, il peut y avoir des moments un peu somnolents, mais... Autrement, c'est un perfectionnement.
Et nous sommes donc avec Giroud, bien sûr, toujours, mais surtout avec peut-être une supportrice, une fan de Giroud. Bonjour Catherine.
Bonjour Pascal Pro, bonjour Monsieur Giroud.
Bonjour Madame.
Catherine, vous êtes une Auxerroise ?
Oui, je suis de la région Bourgogne, en fait. Je suis née à Vallon. Et j'ai suivi l'AJ Auxerre pendant de nombreuses années et le club a fait ma fierté pendant de nombreuses années. Après expatrié sur la région parisienne, je continuais à suivre cette équipe de cœur en fait.
Et vous avez peut-être une question à poser à Giroud ?
Bah écoutez, je le vois beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Je m'aperçois qu'il s'est bien adapté à Facebook et à tout ce qui est communication Internet. Et je voulais savoir si le mode de communication lui plaisait et s'il continuait à vouloir être présent sur tous ces réseaux.
La réponse de Giroud. Giroud est très moderne dans sa communication.
Je ne suis pas présent du tout. Je ne sais pas ce que c'est que les réseaux sociaux. Je les cherche dans la rue ou dans le paysage. Il y a des gens qui usurpent mon nom pour me mettre dans les je ne sais même pas comment ils s'appellent, les uns et les autres.
Ah bon?
Mais moi, je ne sais pas sur quel instrument il faut, s'il faut une mandoline ou un clavier ou un piano. Et un réseau social, je ne sais pas ce que c'est.
Ben, écoutez, de toute façon, je peux vous dire une chose, c'est que toutes les communications qu'on a vous concernant sont bienveillantes et qu'on parle beaucoup de vous, malgré le temps qui a passé et qu'on est bien content d'avoir de vos nouvelles.
Ben, écoutez, je suis flatté, ils sont très gentils et je vous remercie de le relater, mais je ne pense pas que ça va me convaincre de les prendre parce que je m'y suis pas mis, j'ai beaucoup de choses d'arriérés. Par exemple, je communique par un vieux truc qui date des Gaulois, c'est-à-dire une enveloppe et puis un timbre et puis la poste et puis etc. Et ça suffit. Et le téléphone quand même, et puis la radio et la télé. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses.
Le principal, c'est qu'on ait de vos nouvelles et de bonnes nouvelles.
Merci
beaucoup, Catherine.
On est content de vous voir et on est content. Ça nous rappelle de très bons souvenirs. Et malheureusement, le temps a passé, mais on garde de super souvenirs des matchs à la GIA.
Bon, merci beaucoup.
Eh ben, merci beaucoup, Catherine.
Je joue bien encore maintenant. Hein.
Merci beaucoup, Catherine. Et puis on va remercier Guy, aussi l'ami Olivier veut dire un mot.
On parlait des réseaux sociaux. Oui. Et vous vous souvenez de la tendance quoi Koubé, Pascal?
Oui, quoi
Koubé. Quand on dit quoi, qu'on répond Koubé.
Ben, bien
et
sûr.
Bien justement, Guiraud avait fait un TikTok
bien
où
sûr.
Il disait quoi Koubé, qui avait beaucoup tourné.
Donc, exactement. Je pense que, donc moi j'ai été étonné de la réponse de Guiraud. Je pensais qu'il était présent sur les réseaux sociaux avec quoi Koubé.
Voilà.
Bon, merci Guy.
Pascal Pro sur Europe 1.
On cède donc à la SNCF sur les fins de carrière, la grève des contrôleurs aériens demain. Est-ce le grand chantage avant les Jeux Olympiques? Même si, manifestement, on a déjà cédé, puisque le syndicat majoritaire lève son préavis de grève pour jeudi. Et ça vient de tomber à l'instant. Est-ce à dire que la direction a cédé? Je n'en sais rien. Le syndicat majoritaire chez les contrôleurs aériens français a annoncé mercredi la levée de son préavis de grève pour jeudi, un mouvement qui s'annonçait massivement suivi. Un accord a été trouvé. Donc là, je peux savoir, imaginer le type de l'accord. Les contrôleurs aériens, ils gagnent 5 500 € dès qu'ils commencent à bosser. Ils bossent
Le premier salaire ?
Ouais, ils bossent un jour sur deux. Ils ont demandé 18 jours de récupération en plus de ce qu'ils avaient déjà. Et ils sont 4 000. Et 4 000, ça bloque le pays. Donc c'est absolument formidable. Mais c'est comme l'accord de la honte dont on a parlé hier avec la SNCF. Allez-y les gars, hein. Les Jeux Olympiques arrivent, allez-y, hein, c'est le moment. Hein. Si vous voulez quelque chose, si vous êtes en situation de force pour bloquer le pays, si vous êtes cheminot, contrôleur aérien, allez-y à fond. Là, vous avez, là, il y a un petit espace.
Il y a un petit créneau.
Non, mais ce pays est formidable, bien évidemment. Les grévistes, ils demandaient 25% d'augmentation en 3 ans. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu. Donc 18 jours de récupération en plus. Et la grève de la SNCF, quoi, pas la grève d'ailleurs, mais l'accord de la honte avec la SNCF, la réforme des retraites, je l'ai dit ce matin, ne visera pas les salariés du chemin de fer qui auront donc un régime spécial. Ils pourront écoutez bien parce que c'est génial en fait, cessation anticipée d'activité 30 mois avant la retraite. Et ils seront quand même payés. Alors ça, c'est le concept génial, je n'avais jamais entendu ça. T'es en retraite avant la retraite. C'est formidable, t'es en retraite, c'est-à-dire que t'es Europe 1, tu viens pas les 2 dernières années, donc t'es un peu en retraite, t'es payé par Europe 1, il n'y a pas de souci, et dans 2 ans, t'es en retraite. Donc tu contournes la loi sur les retraites, je pense que c'est un truc qui peut n'exister qu'en France. Vous n'êtes pas en retraite, vous êtes en cessation d'activité. La nuance est légère.
Bien sûr. Hein.
Bon, est-ce que nous avons quelqu'un pour réagir là-dessus? Nous sommes. Oh, monsieur Villedieu, je savais pas que vous étiez avec monsieur Villedieu. Oh là là.
En fait, tout le long, je me disais, mais il voit pas qu'il y a monsieur Villedieu.
Mais monsieur Villedieu. Mais même Sudrail est content, donc c'est dire. Non, mais là, monsieur Villedieu, moi, je vous aime bien, vous le savez bien. Je vous ai eu 50 fois. Mais enfin, vis-à-vis des autres salariés du privé, c'est juste un scandale, Fabien Villedieu. Pardonnez-moi de le dire comme ça, vous avez des privilèges que n'auront pas les autres. Bonjour.
Oui, bonjour.
Ça commence bien.
Je ne comprends pas en quoi c'est un scandale. Mais vraiment,
Je vais vous dire, vous me demandez, je vous réponds.
Je vous ai un peu écouté, ça serait un scandale si le contribuable finançait ce système-là. Là, effectivement, ça serait un scandale. C'est-à-dire qu'on demande aux gens du privé ou du public de financer des droits spécifiques pour qu'on puisse partir. Ce n'est pas vrai.
Bah, la retraite des fonctionnaires publics elle coûte 30 milliards, elle est déficitaire, là, celle du privé, elle est excédentaire.
Sauf que c'est pas, je vous signale qu'on est, nous, on a un régime spécial, on ne dépend pas de la fonction publique.
Ah bah oui, non, ça ne va pas échapper.
La SNCF est l'entreprise ferroviaire la plus rentable d'Europe. On fait un pognon de dingue que personne ne fait. Personne, ni la Deutsche Bahn, ni Renfe, ni Trinité, personne ne fait. Qu'on utilise cet argent, c'est le fruit de notre travail, pour qu'on puisse avoir un système de financement.